François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur associé à Sciences Po. On va bien évidemment parler avec vous de l'Ukraine, de cette offensive russe, de l'invasion de ce pays souverain par l'armée russe, avec en tête Vladimir Poutine qui promet du sang et des larmes. Et c'est déjà le cas pour ce pays. 3 millions de réfugiés sur les routes. Finalement, Vladimir Poutine aussi entre être un autocrate et un dictateur. Beaucoup d'ailleurs, même au niveau des responsables politiques, se refusent à le qualifier. Force est de constater qu'aujourd'hui, en Europe, une guerre est aux portes de Paris, hein, de Bruxelles, de Londres, et que finalement, on s'aperçoit que la diplomatie, par peur de la Troisième Guerre mondiale, eh bien, tout le monde reste, je dirais, un peu inerte, inactif. Alors, pas tout à fait inactif puisqu'il y a les sanctions, mais en tout cas, on laisse faire Vladimir Poutine.
Alors, je suis d'accord, mais pas complètement d'accord avec vous sur pas mal de choses. Alors, prenons dans l'ordre. Vladimir Poutine est un dictateur. Évidemment, pendant le débat télévisé, les différents candidats ne se sont pas prononcés sur ce thème, sauf Yannick Jadot, d'ailleurs très courageusement. Mais Macron, vous ne pouvez pas utiliser ce terme de dictateur. Pour des raisons politiques évidentes et de diplomatie évidente. Mais c'est clairement un dictateur. Ce n'est pas des procédés. Ce n'est pas une démocratie. La Russie n'est pas une démocratie. N'a jamais été d'ailleurs une démocratie. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'information. On le voit bien, encore plus avec la guerre actuelle. Les opposants sont mis à l'écart, expulsés, voire assassinés, voire emprisonnés. Et donc, c'est tous les ingrédients d'une dictature dans la tradition tsariste, léninienne et stalinienne. Et Poutine n'en est que leur juste héritier. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la guerre aux portes de l'Europe, je ne suis pas tout à fait d'accord. La situation en Ukraine est terrible, et terrible pour les Ukrainiens, et terrible pour ces 3 millions de réfugiés qui fuient leur pays à juste titre, parce qu'être sous des bombardements, c'est insupportable. Mais la guerre n'est pas aux portes de l'Europe, parce que Poutine est une brute, un barbare. Il ne recule devant rien, on l'a bien vu en Tchétchénie, à Grozny et en Syrie avec le bombardement et le massacre de 300 000 civils. Mais c'est quelqu'un de rationnel qui est dans le rapport de force. Et il sait que s'il touche un pays de l'OTAN, donc s'il touche la Pologne, s'il touche la Roumanie, s'il touche la Hongrie, là il y a l'article 5 de la charte de l'OTAN qui se déclenche immédiatement et il y a une riposte de l'OTAN très forte. L'Ukraine n'est pas dans ce cas de figure, donc c'est pour ça qu'il essaie de jouer sa carte. Mais sinon, sur le fond de la guerre, je considère, et ça n'engage que moi évidemment, que Poutine a perdu la guerre qu'il voulait mener. Poutine avait deux objectifs. Le premier, c'était de faire tomber le gouvernement de Zelensky et de mettre un régime fantoche à sa solde pour que ça redevienne un satellite de la Russie. Et le deuxième, c'était de prendre Kiev. En 3 jours. Nous sommes à 3 semaines de guerre, il est toujours aux portes de Kiev, il ne prendra pas Kiev, la résistance ukrainienne l'a étonné, et il n'a pas réussi à faire assassiner les différents dirigeants politiques, dont le président Zelensky. Donc il a échoué dans son but de guerre, il ne réussira pas, il ne pourra pas conquérir l'Ukraine, il ne pourra pas déstabiliser le régime, il ne pourra pas faire tomber le gouvernement. Par contre, c'est un fin tacticien, il connaît le rapport de force, il veut gagner quelque chose dans ce conflit, donc c'est pour ça qu'il fait une tactique assez classique en stratégie militaire, c'est de gagner le plus de territoires possible, de demander à ses troupes de conquérir le plus de territoires possible pour que le jour où il y aura un cessez-le-feu, je pense que ce sera d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou plus tard, le jour où il y aura un cessez-le-feu, les lignes de cessez-le-feu deviennent, comme on l'a vu dans d'autres conflits qu'on connaît bien, des lignes d'armistice, et à partir du moment où c'est des lignes d'armistice, on peut tout négocier, y compris l'annexion de territoires. Clairement, il veut que l'annexion de la Crimée soit reconnue internationalement et que l'annexion ou des républiques autonomes du Donbass et du Donetsk soit accepté. Donc ça, il peut gagner ce pari-là et sortir un peu la tête haute en disant qu'il a récupéré des territoires ukrainiens. Mais en tous les cas, la guerre qu'il voulait gagner, il l'a perdue.
Alors, l'une des conséquences de cette guerre en Ukraine, c'est qu'elle arrive en pleine campagne présidentielle française et on a tous suivi ce débat sur la première chaîne de la télévision française avec 8 candidats qui se sont exprimés et quelque chose, moi, m'a marqué. C'est peut-être la première fois dans l'histoire d'une élection présidentielle qu'on a des candidats qui ne parlent que de politique étrangère. Alors là, bien évidemment, tout était axé sur l'Ukraine, mais ce sont des candidats qui ont exprimé une vision de la France dans le monde, des relations avec l'Europe, des relations avec les États-Unis, de la place de l'OTAN, des frontières de l'Europe, et on était plutôt habitué à avoir des candidats qui nous parlent de la TVA, du déficit, du commerce extérieur, à juste titre hein, d'ailleurs, c'est important, mais on... Enfin, moi, j'ai toujours considéré que c'était anormal que des candidats à la plus haute fonction en France ne parlent pas de politique étrangère. Eh bien, pour cette élection, on ne parle pratiquement que de ça.
Vous avez tout à fait raison dans cette observation, et sur les deux points d'ailleurs. C'est qu'il est essentiel dans une élection présidentielle que les candidats pose des questions, de questions internationales, de politique de défense, parce que le président de la République, il faut le rappeler, c'est le responsable de la diplomatie française, in fine, et le chef des armées. Et ça a été voulu par De Gaulle, évidemment De Gaulle, ancien général, il y attachait une importance très importante, mais effectivement, ces débats de politique étrangère ont été très occultés de tous les grands suffrages de la Ve République. Le premier grand suffrage était 65, après 69, après 74, après 81, et je dirais dans tous ces suffrages-là, la guerre n'existait pas. En 80, un peu, parce qu'il y avait l'invasion déjà soviétique de l'Afghanistan, donc il y avait un peu le débat, notamment avec les communistes, qui s'alignaient sur l'Union soviétique. Mais effectivement, en 88, en 95, et puis tous les autres suffrages, il n'y a pas eu vraiment de débat sur la politique étrangère de la France. Et là, je trouve que c'est une bonne chose. Et j'ai été très intéressé justement par ces questions-là, lundi soir sur TF1, des journalistes aux différents candidats, et surtout leurs réponses, puisqu'il y avait les candidats pro-Poutine, pro-Russe, qui étaient gênés aux entournures, à savoir Mélenchon, Zemmour et Le Pen. Mélenchon qui a toujours été pro-Poutine et pro-Russe, et qui d'ailleurs a une réponse que j'ai trouvée insupportable, et Gilles Boulot a été très bien là-dessus. Gilles Boulot lui a rappelé qu'il avait dit qu'il fallait pas, et que les Occidentaux avaient franchi une ligne rouge, comme si en fait la guerre avait été provoquée par le fait que les Occidentaux envisageaient peut-être une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et Mélenchon l'a répété, il est allé jusqu'au bout de ses contradictions. En fait, il considère qu'il est neutre, qu'il y a des torts partagés, que c'est les torts de l'OTAN et les torts de la Russie. En fait, là, non, c'est simplement les torts de la Russie. La Russie est l'agresseur, la Russie attaque, la Russie massacre des population civile, et M. Mélenchon se veut neutre. Et donc, une fois de plus, il se disqualifie comme candidat potentiel à présider ce pays, je l'espère. Éric Zemmour, lui qui en 2018 souhaitait un Poutine à la française, était aussi dans ses contradictions, il ne savait plus comment en sortir. C'est quoi un Poutine à la française? C'est quelqu'un qui va peut-être vouloir récupérer la Wallonie aux Belges, ou peut-être les cantons francophones de Suisse aux Suisses, parce que c'est vrai, la Wallonie, il faut s'en rappeler, à l'époque de Napoléon, ça faisait partie de la France. Et donc, on pourrait réclamer la Wallonie aux Belges. Donc, son tropisme pro-russe et sa fascination pour les pouvoirs autoritaires type Poutine, on voit ce que ça donne. Et lui aussi, c'est disqualifié. Je dirais que Marine Le Pen a été plus habile et on aurait pu lui poser des questions sur les prêts réguliers qu'elle a eu des banques russes pour financer ses campagnes électorales. On lui a pas posé cette question, donc elle n'y a pas répondu. Elle a été plus neutre sur le sujet. Mais sa collusion et le financement russe des campagnes du Front National et du Rassemblement National sont connus et prouvés depuis de très longues années. Donc ces trois candidats qui sont vraiment les candidats pro-russes en France, ce qui est inquiétant, c'est que Marine Le Pen est quand même 18%, Éric Zemmour et Mélenchon autour de 12-13%. Donc à eux trois, ça fait quand même pratiquement 40% de gens qui sont prêts à voter pour des candidats pro-russes. Alors j'espère qu'ils vont y réfléchir et qu'ils ne feront pas ce vote-là, surtout pour l'avenir de notre démocratie. Les autres candidats étaient plus ou moins bien sur le sujet. J'ai trouvé que le meilleur, c'était Yannick Jadot. J'étais très agréablement surpris, avec une position très ferme sur le soutien au peuple ukrainien, l'armement de l'armée ukrainienne, l'aide militaire à l'Ukraine, pour les aider à résister contre cette offensive et gagner la guerre qu'ils ont déjà gagnée. Les Ukrainiens, pour moi, sont les vainqueurs de cette guerre par leur résistance admirable.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir Pierre, à bientôt.